Si vous n'aimez pas l'histoire, on tâchera de vous la faire aimer. Si vous l'aimez, on tâchera de ne pas vous dérouter. Les Chemins du Passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Lay, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante. Même si la manière de les présenter est parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques. Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Claude Janin, Honoré Perron, Maude Sénat et Noël Goutenoir.
Chemin de fer et funiculaire, une manière de remonter la pente. Est-ce que vous connaissez des funiculaires?
Ben ouais,
bien sûr.
Alors lesquels?
Il y en a partout.
Celui de la Croix-Rousse.
À la Croix-Rousse.
Par exemple.
Fourvière. À Saint-Hilaire-du-Touvet aussi.
Saint-Hilaire-du-Touvet, d'accord.
Tout à fait.
Oui, bon, alors d'accord. C'est les plus connus dans la région. Mais à votre avis, il y en a eu chez nous?
Ah non.
Ça m'étonnerait. Oui.
Voilà, il faut dépendre.
On n'est pas en montagne.
Eh bien si. Et alors à votre avis, ça pouvait être où?
Pimbouchin? Chalmazel?
Non, alors Chalmazel, c'est des télécabines.
D'accord. Mais moi j'ai décroché.
En clair, un funiculaire est une remontée mécanique équipée de véhicules circulant sur des rails en pente et dont la traction est assurée par un câble. C'est d'ailleurs de là que vient le nom, hein, puisque c'était funiculum en latin, le nom du câble, pour monter une déclivité de terrain. Alors il se compose généralement de deux rames, reliées par un ou plusieurs câbles, et qui réalisent chacun une demi-boucle en gare terminale, située généralement sur le point le plus haut, et où se trouve la machinerie.
Bon, d'accord. Alors il était où, celui du coin?
Eh bien, en fait, il y en avait trois. Il y en avait un au Buy, à Saint-Symphorien-de-Lay, un à Neulise et un à Biès, à Saint-Marcel-de-Féline. Et tous trois avaient une utilité commune, faire franchir le seuil de Neulise au premier train du 19e siècle.
Qu'est-ce que c'était que ces trains?
Eh bien, en fait, ces trains, c'était la première ligne de chemin de fer sur le continent européen. Alors, si je dis continent, c'est une nuance. C'est parce qu'en fait, le tout premier était en Angleterre. Mmh. Alors, il fut d'abord mis en service en 1823 entre Saint-Étienne et Andrézieux. Puis après des travaux entre 1823 et 1828, la ligne fut prolongée jusqu'à Roanne, ou plus exactement jusqu'au port fluvial de Roanne. Ce dernier tronçon, Andrézieux-Roanne, fut mis en service en 1831. Et il a été construit surtout pour transporter le charbon qui était extrait dans le bassin houiller stéphanois et l'amener jusqu'à Roanne, au début de la Loire navigable, pour ensuite l'acheminer par voie fluviale jusqu'à Paris. Mais il voiturait aussi des voyageurs. Disons que pour le charbon, jusqu'à cette époque-là, eh bien, il était acheminé par la Loire sur les Rambertes. Et ensuite, de Roanne, eh bien, le charbon était rechargé dans d'autres navires pour aller par transport fluvial jusqu'à Paris. Mais il faut dire que les gorges de la Loire étaient dangereuses. Ce n'est donc pas par hasard que cette première ligne de chemin de fer, continentale en Europe, disons-le, fut construite en France et reliait Saint-Étienne à Roanne pour éviter justement et remplacer le transport fluvial dans les gorges de la Loire où il y avait beaucoup de difficultés.
Et qui a décidé sa construction?
Et ce sont des entrepreneurs privés qui ont constitué la compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire en 1824. Ils expliquaient alors à leurs actionnaires que ce premier chemin de fer en 1826 serait, je cite, le moyen le plus sûr de réaliser enfin le grand bienfait, si longtemps désiré, de la jonction de la Loire et du Rhône.
Mais alors, dis-moi, pourquoi un funiculaire?
Eh bien, parce que si la ligne de chemin de fer de la Loire parvenait facilement à traverser les vastes étendues plates de la plaine du Forêt, ainsi que celle de la plaine rouennaise, arrivée à Balbigny d'un côté et à Saint-Symphorien-de-Lay de l'autre, il était difficile de franchir le relief perturbé du plateau de Neulise. C'est une véritable barrière naturelle de 550 mètres d'altitude, malgré tout, même si on n'est pas en haute montagne. Et quoi, en fait, hein, le seuil de Neulise? Eh bien, c'est un ensemble de massifs cristallins qui relie les monts de la Madeleine et les monts du Lyonnais, qui séparent vraiment les deux plaines, et avec une dénivelée de près de 220 mètres.
Pas d'autre solution?
Si, cela aurait été possible de contourner le problème en suivant le lit de la Loire de plus près. Ce que d'ailleurs font les trains d'aujourd'hui en passant par Saint-Jodard et Vendrange. Mais cela rallongeait à l'époque le tracé, demandait des ouvrages importants comme des viaducs et des tunnels, trop coûteux pour la société naissante.
Et l'idée du funiculaire, alors, comment elle est venue?
Alors, le premier qui en a eu l'idée, c'est un Anglais, c'est M. Cook, qui a eu cette idée de réaliser un plan incliné à traction funiculaire avec remontée motorisée par machine et vapeur fixe. Le premier système connu avait été mis en place en 1808 à Bitlefell, près de Newcastle, pour remonter des chariots de la houillère d'Urpette. Il inspira directement, d'ailleurs, le premier funiculaire ferroviaire réalisé sur la ligne, toujours en Angleterre, Stockton-Darlington, en 1825, et qui sera le premier au monde à transporter des passagers. Or, si on remonte l'histoire, si j'ose dire, le premier funiculaire connu date du Moyen-Âge, hein, c'était 1515, et le funiculaire primitif du Reichsbezug, qui desservait la forteresse du Hohenzollern. Salzbourg à Salzbourg et est ému par l'homme ou l'animal. Mais ceux du seuil de Neulise ont été les premiers funiculaires ferroviaires en service sur le continent européen.
D'accord, mais concrètement, ça consistait en quoi ?
Eh bien, en France, Mellet et Henry, connaissant les réalisations anglaises, reprennent ce principe de plan incliné en entamant la construction de 4 sections de funiculaires pour permettre aux wagons de franchir les contreforts du plateau de Neulise. Alors d'abord le funiculaire de Biesse, qui est situé près de Balbigny, le double funiculaire de Neulise, dont la station motrice est située au point culminant de la ligne, le funiculaire enfin automoteur de Buis, sur la commune de Saint-Symphorien-de-Laye. Alors si les deux autres bénéficiaient d'une machine à vapeur, celui-ci n'est pas motorisé mais fonctionne uniquement par contrepoids entre les trains chargés de charbon descendant sur Roanne et ceux moins lourds revenant dans l'autre sens. Conformément aux préconisations des ingénieurs, sur chacun de ces appareils, le câble, initialement réalisé en chanvre, est renforcé en 1845 d'une âme métallique. Malgré tout, il ne se risque guère à attracter des wagons sur une pente supérieure à 4%.
Concrètement, ça se passait comment ?
Ah, c'était toute une aventure, hein. Imaginons les convois venant de Saint-Étienne. Ils sont tirés depuis Andrézieux par traction animale ou locomotive jusqu'au pied du premier plan incliné funiculaire à Biesse. Les wagons sont alors séparés du tracteur et tirés par câble une première fois sur 1936 mètres. Les locomotives ou les chevaux attendent quant à eux les véhicules descendants pour repartir en direction d'Andrézieux. Puis arrivés à Biesse, les wagons sont conduits sur 4230 mètres par un attelage de chevaux jusqu'au pied du funiculaire de Neulise. Ce n'est qu'en 1841 que la société investit dans deux locomotives pour assurer le transport de cette section. Au pied du double funiculaire, la puissance limitée de la machine à vapeur oblige à attendre un convoi descendant pour faire contrepoids sur les 2330 mètres du plan montant de Champagny. Et inversement, à attendre un convoi montant pour franchir la même distance à la descente sur le plan de Grand-Ry. On le voit, c'était toute une série d'étapes qui demandaient beaucoup de temps. Dans le funiculaire du Buis, qui était de type automoteur, eh ben les trains conservent leur locomotion, mais du coup, on se retrouve dans une situation où aussi il fallait attendre chaque fois qu'il y ait un convoi montant et un convoi descendant. Et puis après la commune de l'Hôpital-sur-Ain, eh bien le trajet se poursuit de façon plus conventionnelle dans la plaine rouennaise.
Et ça dure jusqu'à quand ?
Jusqu'en 1857, quand le tronçon actuel passant par Vendrange et Saint-Jodard, que j'évoquais tout à l'heure, fut ouvert pour éviter la montée laborieuse du seuil de Neulise. D'ailleurs, de Saint-Étienne à Balbigny et de l'Hôpital-sur-Ain à Roanne, le tracé actuel reprend pour l'essentiel celui de ce premier train. Sauf qu'aujourd'hui, la ligne passant par l'hôpital conduit à Lyon et non plus à Saint-Étienne.
Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Claude Janin, Honoré Perron, Maud de Sénat et Noël Goutenoir.